Bien. Eh bien, la dernière fois, nous avions parlé un petit peu de la figure du Père, qui se révèle particulièrement au travers de l'œuvre de la création. Nous avions parlé de ce projet initial pour l'humanité, dans sa première amitié avec les hommes, au commencement, dès l'origine. Une histoire qui a un petit peu mal tourné, qui est marquée maintenant par le péché, mais une histoire qui est toujours conduite par le Seigneur dans sa providence. Puisque nous avons bien dit que dans cette notion de création, nous disons que Dieu continue de soutenir dans l'existence et dans l'histoire tout ce qui existe. Nous croyons en cette providence qui conduit toute l'histoire. Alors après un long chemin pédagogique, on va dire, un chemin que Dieu accomplit auprès d'une famille humaine, de la descendance d'Abraham, Dieu va manifester la clé de voûte de son projet. Il va manifester le nouvel Adam, qui est Jésus-Christ. Le cœur de notre foi chrétienne, c'est la rencontre avec cette personne, avec Jésus. Jésus a posé un jour cette question à ses disciples : pour vous, qui suis-je ? Nous allons explorer un petit peu quelques aspects de la réponse, de la foi. On ne peut pas tout dire, c'est sûr. Et surtout, on ne peut pas résumer une personne à ce qu'on peut dire d'elle. Mais ce qu'on peut en dire nous aide à la rencontrer. Il y a des éléments que nous pouvons cerner par notre intelligence, des éléments clés qui nous permettent d'entrer, de percevoir un petit peu son mystère. Et en entrant dans ce mystère de Jésus, dans cette rencontre avec Jésus, d'entrer finalement dans le mystère de Dieu qui veut nous rencontrer et nous habiter. Nous avons déjà dit justement en parlant de la Trinité que nous comprenons la vie de Dieu dans la mesure où nous y communions, nous entrons dans cette vie de Dieu par la foi, au travers justement de notre lien à Jésus. Pour vous, qui suis-je ? En fait, la réponse impacte toute notre expérience de foi. Elle est cruciale pour nous. Alors, comme nous avons déjà parlé de la Trinité, nous allons partir de là, c'est une manière de suivre le cheminement de Jésus. Nous avons dit que Dieu est unique, Dieu est une seule nature divine, vivant en trois personnes divines. Jésus est vraiment Dieu le Fils, c'est-à-dire celui en Dieu qui se reçoit totalement de Dieu, celui qui est pure réception et qui se rend par amour au Père. C'est lui le Fils éternel, c'est vraiment lui que nous allons croiser en Jésus. Alors je vais vous citer ce que nous dit la lettre aux Hébreux, justement, de ce Fils éternel du Père. C'est le tout début de la lettre aux Hébreux qui nous parle de Jésus sous cet aspect-là. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. On voit bien que c'est le Fils éternel, il parle bien du Dieu éternel. Saint Jean aussi parle du Fils de Dieu dans son éternité. Au début de son évangile, il parle du Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui va se devenir homme. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Nous connaissons bien ce début de l'évangile de Jean que nous entendons le jour de Noël, le matin de Noël. Alors cette personne divine, éternelle, se manifeste dans le cours du temps, au travers d'une vraie nature humaine. Jésus est vrai homme, homme comme nous le sommes. Il est donc une personne en deux natures. C'est ça qui rend la chose délicate et unique. La vraie nature divine et une nature humaine. Cette union absolument unique au niveau de sa personne, nous appelons ça l'union hypostatique, pour dire l'union au niveau de la personne. Jésus est vraiment le Dieu unique, la même nature que le Père, la même substance que le Père, et c'est pour ça que nous disons qu'il est consubstantiel au Père, il est la même chose, la même substance que le Père. Mais Jésus est aussi vraiment un homme, une nature humaine intégrale, corps et âme. Il a reçu cette nature humaine en étant engendré par la Vierge Marie, par une vraie femme, engendré par elle seule, par l'œuvre du Saint-Esprit, au travers d'un miracle, au travers d'un événement qui dépasse les lois de la nature, un événement qui marque qu'il n'a pas de père selon la chair, pas de père selon la nature humaine. Il a reçu sa nature humaine de Marie. Quand nous disons que Dieu vient dans la chair, bien le mot chair ne signifie pas seulement la matière, la matière carnée, la viande. Quand nous disons la chair, Dieu prend chair, nous disons bien toute la nature humaine, corps et âme. Il a pris chair, il a pris notre humanité. Alors du côté de Dieu, dans son éternité, bien cette incarnation, le fait que Jésus soit dans le temps, cette incarnation n'a rien changé en Dieu, puisque Dieu est éternel, il est hors du temps, il n'a pas changé en lui-même. En revanche, dans cette nature humaine conçue en Marie, eh bien, elle est habitée par Dieu d'une manière tout à fait unique. On dit qu'elle est assumée par Dieu. Et c'est vraiment Dieu le Fils qui est le sujet de cette personne qui va vivre et s'exprimer. Alors, je cite là un petit passage du catéchisme. Il n'y a qu'une seule personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, un de la Trinité. Tout dans l'humanité du Christ doit donc être attribué à sa personne divine comme à son sujet propre. Non seulement les miracles, mais aussi les souffrances et même la mort. Celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et un de la Sainte Trinité. L'Église confesse ainsi que Jésus est inséparablement vrai Dieu et vrai homme. Il est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, notre frère, et cela sans cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Il resta ce qu'il était, il assuma ce qu'il n'était pas. Alors, au cours des premiers siècles, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de débats pour définir précisément, justement, pour essayer de comprendre précisément qui est Jésus. Il y a eu plusieurs courants, plusieurs idées qui ont circulé, des erreurs souvent, des hérésies, qui ont justement permis à l'Église de préciser les choses, d'essayer d'approfondir les choses. Alors nous n'allons pas faire le tour de toutes les erreurs, même si tout est intéressant et important pour comprendre comment on est arrivé à ce juste milieu. Mais il y a parfois la tentation de mettre l'accent un petit peu sur la divinité de Jésus, parfois l'accent sur son humanité, parfois nier l'un ou l'autre, parfois oublier que Jésus a une âme. Il y a plein de possibilités de se tromper, mais c'est en explorant un petit peu toutes ces questions que l'Église a finalement bien défini les choses pour être totalement fidèle à ce que nous recevons dans la Révélation, fidèle aux Écritures, et à ce que les fidèles portent dans leur foi depuis toujours. Alors, en tant que Dieu, Jésus a l'intelligence et la volonté de Dieu, son intelligence et sa volonté divine. Et en tant que vrai homme, bien son âme humaine a aussi une intelligence et une volonté propre. Ce sont des choses qu'on a du mal à imaginer, qu'il y ait dans une personne deux volontés, deux types de volontés. Cette volonté humaine, volonté divine, cette intelligence humaine, cette intelligence divine. Donc je cite le catéchisme. Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Alors, quand nous disons qu'il est homme comme nous, hormis le péché, nous voulons dire en fait que sa nature humaine, c'est la nature humaine d'Adam au départ. La nature telle que Dieu l'avait créée au départ, donc qui n'est pas atteinte personnellement par un certain nombre de fragilités qui ont suivi le péché. Ça peut être important dans certains domaines, parce que du coup, toutes ces facultés humaines ne sont pas absolument comparables aux nôtres. Il y a certaines blessures dans sa manière d'être homme qui ne sont pas les nôtres, justement. Et il faut faire attention spécialement, justement, quand on essaye de psychanalyser le Christ, puisqu'au niveau de son psychisme, voilà, on n'est pas comparable à lui en tout point, justement. Il faut être un petit peu attentif de ne pas dire des bêtises quand on veut essayer de projeter sur le Christ l'image que nous avons de la nature humaine. Donc, le Christ a une intelligence humaine, une vraie intelligence humaine. Dans Saint Luc, qui nous parle de l'enfance de Jésus, il nous dit d'ailleurs que Jésus a grandi en sagesse, en taille et en grâce. Voilà pour nous dire que Jésus a vraiment acquis de manière expérimentale, normale, ce que tous les hommes apprennent pour ce qui concerne la vie humaine. Par rapport à Dieu, cependant, il était dans une connaissance intime et immédiate, c'est-à-dire dans une sorte de contact profond qui dépasse ce que nous pouvons percevoir et comprendre. Dès le premier instant de son incarnation, justement, il est dans un contact direct avec le Père jusqu'à la racine de son être. Et donc, au fur et à mesure que son intelligence humaine s'est formée, eh bien, cette intelligence a été remplie, finalement, de cette conscience de son lien au Père. Avant qu'il ait la capacité de le comprendre, avant qu'il ait les mots pour le formuler, il y avait cette conscience qui, au fur et à mesure, est venue, justement, dans la croissance de son intelligence humaine. Nous avons très peu d'histoires sur l'enfance de Jésus, mais ce que nous voyons de manière certaine, c'est qu'à 12 ans, quand il est retrouvé au temple par Marie et Joseph, il sait qui est son père. C'est clair, il sait que son père est Dieu, justement. Voilà, donc dans tout ce qui est avant, il faut faire attention de ne pas tomber dans des explorations un petit peu hasardeuses. Jésus a conscience de qui il est. Alors, par rapport à la connaissance des autres réalités, bien, dans les évangiles, nous voyons parfois que Jésus sait des choses de manière un peu miraculeuse, surhumaine, donc où c'est l'intelligence divine qui révèle des choses, mais aussi parfois des choses qu'il ne sait pas, et car finalement sa connaissance humaine, elle est liée à sa mission. Il y a des choses qu'il ne sait pas parce qu'il n'a pas besoin de les connaître, ou qu'il n'a pas mission de les révéler, tout simplement. Et voilà, une intelligence humaine ne peut pas non plus tout savoir, justement, et ce n'est pas sa mission de tout révéler. Par exemple, quand on l'interroge sur le jour et l'heure de la fin des temps, il dit justement que cela appartient au Père. Et ça ne fait pas partie de sa mission de le révéler, tout simplement. Donc, pour ce qui concerne son intelligence, Jésus a aussi une volonté humaine, une volonté qui suit sa volonté divine en parallèle, qui ne lui résiste pas, mais qui se soumet progressivement à cette volonté divine qui lui est subordonnée. Alors on peut sentir cette distinction entre les deux volontés du Christ au moment de l'agonie de Jésus, quand il entre dans sa passion, quand c'est le moment où cette conjonction commence à coûter, à devenir difficile. Parce qu'il est pénible d'accepter de souffrir, de devoir souffrir, surtout quand c'est absolument injuste. Littéralement, c'est contre nature de souffrir. Donc notre nature le rejette. Donc il y a une pénibilité à accepter qui se fait sentir justement au moment de l'agonie de Jésus. Mais il entre, sa volonté humaine entre dans cette volonté divine. Il accepte sa passion par amour. Là, je dis quelques mots justement sur le fonctionnement interne de Jésus. le mystère de sa nature humaine, conjointe à sa nature divine. Alors cet être extrêmement particulier, nous devons remarquer justement, bien qu'il a une place absolument unique dans tout le cosmos, il est le point de contact entre le Créateur et toute la création. C'est absolument unique. Cet événement de l'incarnation est absolument radical et définitif, puisqu'un homme, en devenant homme, il devient aussi bien, éternel du point de vue humain. C'est une nature humaine pour toujours. Dieu s'est fait homme pour toujours. Et du coup, nous devons essayer de sentir son rôle par rapport à tout ce qui existe, et en particulier par rapport à l'humanité entière. Il est aussi unique que Adam, hein, par rapport à toute l'humanité, et c'est en ça justement qu'on va le considérer comme un nouvel Adam. Alors pour faire un petit peu le parallèle avec le premier Adam, eh bien, il faut se souvenir que Adam et Ève ensemble, hein, pas séparément d'Ève, mais Adam avait reçu la nature humaine au bénéfice de toute l'humanité. Si nous prenons l'image d'un organisme, d'un corps, on peut considérer tout le genre humain comme un corps, une famille, mais plus encore un corps, dont Adam est la tête. Et ce qui a touché la tête a eu des répercussions sur tout le corps. Quand le péché a blessé la tête, Adam, il y a une blessure qui s'est répandue dans le corps entier. Nous avons parlé justement du péché originel, donc un péché actuel pour Adam, pour la tête, mais qui a entraîné certaines conséquences pour tous, dans une mystérieuse communion dans notre nature humaine, qui est devenue fragilisée à cause de ce péché d'Adam. Une nature humaine qui n'est plus originairement en amitié avec Dieu. Alors en reprenant cette image d'un organisme, nous pouvons percevoir Jésus comme la tête d'un nouveau corps. Ce corps de Jésus qui va être l'Église. L'Église à laquelle il communique une vie nouvelle, il partage sa vie divine, il partage la communion avec Dieu, d'une manière même infiniment supérieure que la première amitié que l'homme avait avec Dieu. Il va nous faire participer à la Trinité. Alors, ce nouvel Adam, c'est déjà saint Paul qui en parle. Il parle dans quelques passages de ces deux pôles de l'humanité entre le premier Adam et le Christ, qui est le nouvel Adam. Il en parle spécialement dans la première lettre aux Corinthiens. Je cite quelques passages. De même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Alors, nous avons déjà dit que Dieu est vie, amour. Son projet sur l'humanité, c'est de manifester et développer la vie. Et en fait, Jésus va entraîner l'humanité sur le chemin de la vraie vie, de la vie nouvelle qui vient répondre, soigner, guérir la vie blessée que nous avions reçue de notre premier Père. Et en fait, au travers de son acceptation de la réalité de la vie humaine, et son passage dans une nouvelle vie, sa résurrection va en fait inaugurer vraiment un monde nouveau pour toute l'humanité. Parce que ce qui s'est passé pour la tête, eh bien, va se passer pour le corps entier. Cette vie nouvelle, cette vie de la résurrection, va passer dans le corps entier, puisque le Christ est notre tête. La réponse de Dieu au malheur du péché n'est pas une baguette magique. On avait posé la question, mais pourquoi n'a pas Dieu n'a pas simplement pardonné le premier péché, il y aurait un deuxième, et puis il y a une réponse plus profonde à apporter à ce problème du péché. Et Dieu a voulu que l'homme ait la dignité de prendre part à cette réponse, de prendre part au salut qu'il a voulu opérer. Et c'est pour cela que la nature humaine de Jésus est essentielle. C'est essentiel qu'un homme, un vrai homme, fasse partie de la réponse au problème du mal et du péché. Le moteur de la vie du Christ, eh bien, c'est le moteur de la vie divine, c'est l'amour. Et en tant que Dieu incarné, justement, l'incarnation de l'amour, eh bien, Jésus, dans ses actes humains, va réparer la blessure du péché. C'est pour cela que nous insistons sur le fait qu'il est sauveur. Sa mission, c'est de sauver, et c'est une mission qui est inscrite dans son nom. Jésus, c'est le Seigneur sauve. À Noël, nous entendons cette appellation d'Emmanuel, souvent. Viens Emmanuel, nous chantons pendant l'Avent. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Ça dit quelque chose de Jésus. Mais sa mission profonde, c'est d'être Jésus, d'être le Seigneur sauve. Parce qu'au travers de tout ce que Jésus vit, eh bien, il se passe quelque chose qui s'appelle le salut. Cette transformation du lien entre Dieu et l'humanité. Alors Jésus n'est pas seulement en communion organique avec son corps, avec nous tous. En tant que Dieu, il reste aussi en face de l'humanité, en vis-à-vis. C'est pour ça que Jésus reste toujours vis-à-vis de chacun de nous et vis-à-vis de toute l'Église aussi un partenaire. Il est en face de nous. Le partenaire qui s'exprime, qui s'unit à nous par amour, comme un époux. Cette image de l'époux et de l'épouse est pour nous aussi cruciale. Il donne sa vie par amour pour nous, comme voilà, l'homme donne sa vie tout entière pour son épouse. Et ce mystère de la conjugalité, justement, bien, nous dit quelque chose de ce que Dieu veut vivre en nous par Jésus. L'Église répond à l'amour de Jésus, nous répondons à son amour par notre amour et par notre foi. Alors cette image, nous reviendrons certainement dessus, parce qu'elle est très importante pour comprendre le mystère du mariage, par exemple, et d'autres réalités sous cet aspect-là. C'est le fait que Jésus est époux de l'Église. Alors jusqu'à présent, c'est un... Je reste un petit peu encore dans l'abstraction. J'aime bien commencer d'en haut et descendre doucement. Et alors, en tant qu'homme, Jésus est très concrètement lié à une histoire. Quelque chose qui nous rejoint historiquement. Et cette histoire, bien, c'est celle d'un peuple, le peuple juif, la descendance d'Abraham. Il n'est pas un météore venu de nulle part et qui tombe n'importe où. Toute l'histoire de la révélation est préparation à cet événement de l'incarnation et à cet événement du salut par Jésus. Jésus naît comme membre du peuple juif, il est juif, un vrai juif, et en même temps il est le Messie des Juifs, le Dieu des Juifs, oui, mais le Messie des Juifs, Messie qui avait été promis par Dieu à son peuple. Alors le Messie, qui est sa mission, son rôle, c'est littéralement celui qui a reçu l'onction. Un mot qu'on a traduit en grec par Christ, qui dit la même chose. Et ce titre de Christ est pour nous le plus utilisé. Et pour nous, il est essentiel, et je vous propose de l'explorer un petit peu, justement d'explorer le mystère de Jésus au travers de ce titre de Christ, le fait qu'il est le Messie loin du Seigneur. Alors dans l'histoire d'Israël, certaines personnes recevaient cette onction pour manifester une consécration à Dieu et une mission de la part de Dieu. Et cette onction signifiait finalement l'action de l'Esprit de Dieu en eux. Alors, ceux qui étaient loin, c'était les prêtres, les prophètes, les rois. Nous savons tout cela. Alors Jésus est marqué par l'onction de l'Esprit, évidemment d'une manière infiniment plus profonde que tous les prêtres, prophètes et rois qui ont parcouru l'histoire du peuple juif. Il est rempli de l'Esprit Saint puisqu'il est un avec l'Esprit Saint. Il est un avec le Père et l'Esprit Saint. Sa nature humaine est remplie de l'Esprit Saint dès sa conception. Il incarne tout entier la mission divine dans tout ce qu'il est. Alors cette consécration messianique, cette consécration comme Messie, elle va se révéler dans le temps de sa vie terrestre, et elle va commencer à se révéler spécialement lors du baptême de Jésus, au début de sa vie publique. C'est à ce moment qu'on voit que l'Esprit descend sur lui, de manière visible. C'est alors qu'il commence à être manifesté au peuple comme le Messie de Dieu. Alors, on va un petit peu développer ces trois aspects inclus dans l'idée du Messie, du Christ. Alors, Jésus d'abord se révèle comme prêtre. Alors, je reviens d'abord sur ce que Dieu attend des hommes, c'est d'entrer avec lui dans une relation d'amour. Ça ne change pas depuis toujours. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est une parfaite obéissance dans l'amour, de se donner à lui dans un amour total, mais ce n'est plus vraiment possible depuis le péché, car cette brisure du péché a quelque chose de définitif dans les capacités de l'homme à se donner dans l'amour. Depuis l'origine de l'humanité, les rapports de Dieu avec les hommes passent par des offrandes qui sont du coup symboliques, puisque l'homme ne peut pas vraiment se rendre totalement à Dieu. Il y a cette nécessité de passer par des symboles, des choses temporelles, mais qui signifient quelque chose. Alors pour rendre grâce des dons que l'homme a reçus, pour implorer le pardon de Dieu, pour demander que Dieu soit propice, eh bien, l'homme fait des offrandes. Alors nous savons qu'au père des croyants, à Abraham, Dieu a demandé une offrande en signe de foi. Il a demandé un sacrifice. Nous connaissons cette histoire du sacrifice d'Isaac. Alors, cette demande de sacrifier son fils, il faut d'abord dire qu'elle était crédible pour Abraham. Il a pris ça au sérieux, car dans les civilisations qui l'entouraient, les cultures qui l'entouraient, les civilisations païennes alentour, bien les hommes offraient parfois les enfants en sacrifice à leur Dieu. C'était ce qu'ils avaient de plus cher à offrir pour montrer leur loyauté à leur Dieu. Ça se faisait dans l'esprit du temps. Alors, au moment fatidique, Dieu a montré à Abraham qu'il ne veut pas un sacrifice de ce type-là. Car le vrai Dieu qui se révèle en lui, justement, c'est le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour. Isaac pose la question à son père, « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham lui dit, Dieu pourvoira. Alors à ce moment-là, il ne sait pas encore, il pense encore devoir offrir son fils. Mais nous savons bien que justement Dieu retient le bras d'Abraham et Dieu envoie un bélier pour remplacer Isaac. Donc c'est Dieu qui pourvoit, effectivement. Et dans ce sacrifice du bélier, c'est le début des sacrifices d'animaux qui vont parcourir toute l'ancienne alliance. Mais nous devons remarquer que Dieu a fourni un bélier. Il n'a pas précisément répondu à la demande d'Isaac, puisque Isaac demandait où est l'agneau. Parce que ce bélier n'est pas encore justement le vrai sacrifice que Dieu attend des croyants. Et du Père, quand il s'adresse au Père des croyants, il s'adresse déjà à tous les croyants. Le vrai agneau que Dieu va envoyer pour le sacrifice, eh bien, ce sera Jésus. C'est lui qui va se révéler comme l'agneau de Dieu, lui qui est le propre Fils de Dieu. Saint Jean nous dit, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Par rapport aux mentalités, justement, préhistoriques, Dieu renverse la démonstration. Il n'est pas possible à l'homme de manifester adéquatement son amour pour Dieu, alors c'est Dieu qui lui prouve son amour en donnant lui son Fils. C'est Dieu qui se donne lui-même dans son propre Fils, et c'est la seule offrande qui est finalement à la hauteur de la dignité divine. Alors Jésus est à la fois l'offrande, le prêtre qui offre, et l'autel du sacrifice, c'est-à-dire le lieu du sacrifice. C'est sa propre vie qui est le sacrifice d'amour qui réalise l'alliance avec Dieu, le lien avec Dieu. Tout au long de la vie de Jésus, au fur et à mesure que sa vie humaine se développe, au fur et à mesure que sa volonté divine s'incarne dans la volonté humaine et dans tous ses actes humains, eh bien Jésus offre au Père cet amour parfait qu'il attend en retour, et il l'offre au nom de toute l'humanité. Cet amour, au travers des actes vraiment humains, qui est le remède à la blessure du péché, puisque le péché a entraîné justement tous ces désordres dans nos actes humains, que Jésus répare au travers de cette obéissance, au travers de tous ses actes. Cette offrande prend une dimension sanglante lorsque Jésus accueille sur lui toutes les conséquences du péché des hommes pendant sa passion. C'est à ce moment qu'il se montre vraiment comme l'agneau de Dieu qui se laisse livrer à l'abattoir, mais dans un don qui est parfaitement libre et volontaire de sa vie. Cette liberté de Jésus dans sa passion, il l'a clairement manifestée en se donnant déjà la veille de sa passion. Quand il se donne dans le sacrifice de l'Eucharistie, nous reviendrons bien sûr là-dessus, quand il donne son corps et son sang sous les signes du pain et du vin, eh bien, il montre que toute sa passion va être un acte libre, c'est lui qui se donne. Ce n'est pas un malheur qui lui tombe dessus, c'est lui qui se donne, c'est cela qu'il faut voir dans sa passion. Et il va incarner dans ces circonstances douloureuses le plus grand amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce don d'amour qu'il fait par fidélité au Père, ce don d'amour qu'il fait aussi pour nous, pour tous les hommes. Alors la lettre aux Hébreux nous explique ainsi le sacerdoce du Christ. Je cite, « En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. » Alors ce sacrifice du Christ est très différent des sacrifices anciens, justement. Ce sacerdoce du Christ est différent des prêtres anciens qui offraient des sacrifices d'animaux qui finalement étaient inutiles, uniquement symboliques. Il y avait une importance dans l'Ancienne Alliance, le sacerdoce lévitique qui remonte à la tribu de Lévi. Le premier prêtre était Aaron, le frère de Moïse, Moïse et son frère qui étaient de la tribu de Lévi, et ses descendants après lui. Donc ce sacerdoce lévitique est tout à fait différent de ce que Jésus va vivre, sa manière d'être prêtre. Dans les psaumes, nous trouvons une annonce du Messie comme un prêtre, selon le sacerdoce de Melchizedek. Alors, je ne vais pas trop développer cette idée, mais c'est une figure un petit peu mystérieuse, ce prêtre Melchizedek, qui apparaît une seule fois dans la Bible. Mais au travers de cette figure, on voit que ce sacerdoce est tout à fait supérieur au sacerdoce lévitique qui suivra, car ce prêtre Melchizedek a reçu l'offrande de la part d'Abraham et il a béni Abraham, donc il vient bien avant l'Alliance. Alors sur Melchizedek, je vous invite à lire le chapitre 14 de la Genèse, ceux qui veulent croiser l'histoire de Melchizedek, Genèse 14, et la lettre aux Hébreux aussi en parle beaucoup. La lettre aux Hébreux a beaucoup de développement sur le sacerdoce du Christ, sur le mystère du Christ, c'est très intéressant. Alors avec le sacrifice du Christ, eh bien les sacrifices anciens disparaissent forcément, et même le temple de Jérusalem devient inutile, car le vrai temple, c'est le corps de Jésus. Son sacrifice est réalisé une fois pour toutes dans sa mort et sa résurrection. La résurrection marque finalement que le sacrifice a été reçu, agréé, accepté, et qu'il a définitivement apporté le pardon. Car Dieu a enfin reçu l'offrande digne de lui, l'offrande d'amour digne de lui. Et l'humanité peut désormais entrer dans cette nouvelle phase de sa vie en union avec Dieu, dans le monde nouveau, selon le vrai projet de Dieu. Jésus se révèle aussi comme un prophète. Le Messie, c'est aussi le prophète. Il a l'onction du Seigneur. Dans la figure du prophète, elle parcourt toute l'histoire sainte. Ces prophètes sont ceux qui ont été appelés par Dieu pour révéler sa parole, pour parler en son nom. Ils sont oints, ils sont consacrés par l'Esprit de Dieu. Nous disons d'ailleurs dans le Credo que l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. La première et la plus grande figure du prophète, c'est Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, qui reste le modèle et qui a transmis la loi de Dieu, qui a transmis le décalogue. Et Dieu a parlé à Moïse justement de l'avenir de cette dimension prophétique en disant « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. » Alors de nombreux prophètes se sont levés au cours de l'histoire, mais le peuple était en attente de ce nouveau Moïse, ce grand prophète qui devait venir sous la figure du Messie. Alors, ce nouveau Moïse, c'est Jésus. Jésus qui n'est pas seulement rempli de l'Esprit Saint, qui n'est pas seulement porteur de la parole de Dieu, mais qui est la parole de Dieu. Il est le Verbe fait homme. Il révèle à la fois Dieu d'une manière plénière, et il révèle aussi bien le mystère de l'homme. Il révèle Dieu dans sa pleine vérité et il indique le chemin de la justice au travers de la loi nouvelle. Il est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, comme disait saint Jean au début de son évangile. Alors Jésus, le prophète, ne vient pas changer ou abolir la loi, mais il vient accomplir la loi ancienne. Il confirme le décalogue, il confirme la loi et il l'approfondit en révélant ce qui doit devenir le moteur de la vie humaine, et c'est le mystère de l'amour, évidemment. Toute la loi se résume dans ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, ce qui exprime le mystère même de la communion de la vie trinitaire. Dieu est amour, j'ai dit mille fois, et le projet de Dieu, c'est que l'homme entre dans cette vie d'amour, dans ce mouvement d'amour. Donc, Jésus enseigne cette loi nouvelle, mais il ne fait pas que enseigner. Il incarne cette loi au travers de tous ses actes humains. Il l'illustre au travers de sa manière d'être homme. Et en même temps, il la rend aussi possible, car lorsque nous avons foi en lui, dans notre relation à lui, il nous donne la grâce, il nous donne l'esprit pour vivre selon cette loi. C'est la grâce qui nous donne, qui nous permet de faire le bien et de vivre vraiment cette loi de Dieu, la loi nouvelle. L'amour de Dieu, c'est Jésus qui l'accomplit de manière parfaite, on l'a déjà dit, en aimant le Père de toutes ses forces et de tout son cœur d'homme, et en offrant cet amour au Père. Et l'amour du prochain, bien c'est aussi lui qui l'incarne d'une manière radicale et définitive. Il l'incarne en donnant sa vie pour les hommes, de sorte qu'il peut même reformuler le commandement de l'amour du prochain en nous disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors ceci pour dire justement cette dimension prophétique dans la mission de Jésus, le Messie qui est plus qu'un prophète, évidemment, mais il est aussi un prophète en portant la parole de Dieu. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, disait de lui-même qu'il était la voix qui parle, qui porte la parole de Dieu, mais qu'il est la voix. Tous les prophètes étaient des voix, mais Jésus est la parole divine elle-même qui se manifeste. Jésus se révèle aussi comme le roi, le Messie royal qui était attendu. Le Messie promis par Dieu, il a reçu aussi justement cette onction pour être le grand roi d'Israël. Alors la figure du roi pour le peuple d'Israël, elle s'enracine dans le premier grand roi, ce qui est David. Historiquement, il y a Saül avant lui, mais le grand roi, c'est David, choisi par Dieu Et Jésus apparaît comme descendant de David, hein, dans cette filiation légale qui lui vient par Joseph. On a toute cette l'ascendance de Jésus qui nous est donnée dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Jésus fait partie de cette descendance royale de David. Donc il a une prétention au trône. Alors, mais derrière l'attente et l'espérance du Messie roi, il y avait à l'époque de Jésus des attentes qui étaient devenues extrêmement politiques. Évidemment. Car au départ, la promesse faite à Abraham et sa descendance d'une terre, cette promesse d'une prospérité, d'un royaume terrestre, eh bien, en fait, c'était une étape importante, mais une étape pour préparer le don spirituel infiniment plus grand que le Seigneur voulait donner. L'héritage de la vie éternelle, le royaume de Dieu que Dieu voulait établir dans une communion à la vie divine, dans un monde totalement renouvelé, qui sera le monde de la résurrection. Alors ce royaume de Dieu que Jésus a annoncé, qui s'enracine dans la vie spirituelle, il a été assez mal compris, justement, face à ces attentes politiques qu'il y avait derrière l'idée du Messie roi. Ce sera d'ailleurs un des motifs de sa condamnation. On se rappelle qu'au haut de la croix, Pilate a fait inscrire « Jésus, roi des Juifs », de manière un peu ironique. Alors que Jésus a bien expliqué et montré que son règne était différent. À Pilate, qui lui avait demandé s'il était roi, il a dit « Je suis roi, je le suis ». Mais il a tout de suite précisé « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Le règne de Dieu, le royaume de Dieu se manifeste, bien, et il se réalise par la transformation des cœurs, par la conversion. Le combat de Jésus, ce n'est pas un combat militaire avec des troupes, des armées. Son combat est le combat contre le mal par le bien. Ce combat qu'il a posé au travers de tous ses actes humains, qui étaient parfaits et offerts à Dieu. Sa victoire décisive contre le prince de ce monde, contre Satan, eh bien, elle s'est réalisée dans le don libre de son amour jusqu'à la croix. C'est en allant jusqu'au bout de ce combat qu'il a mérité d'être reconnu comme roi par conquête, on va dire. Il est allé combattre son ennemi sur le terrain, justement, du péché, en apportant l'amour et la réponse du bien et du pardon. Alors, le fruit de ce combat du Christ sur le plan de l'amour se situe bien dans le secret des cœurs. Et c'est là que son royaume se rend aujourd'hui déjà présent. Ici-bas, dans ce monde qui reste blessé par le mal, Dieu règne lorsque le cœur de l'homme lui est connecté par la foi en Jésus. Et c'est ainsi justement que Jésus nous entraîne dans sa victoire et qu'il nous fait entrer dans son royaume. Le règne de Dieu est déjà présent en germe et il se manifestera pleinement après le jugement dernier, après la fin des temps, lorsque le Seigneur recréera toutes choses dans sa justice. Jésus montre dans sa passion sa manière d'être roi, sa manière de régner ici-bas, et c'est en allant au bout du service. Le service, se mettre totalement à la merci de l'autre, se donner totalement par amour de l'autre, c'est le mystère de l'amour qui se donne jusqu'au bout, le service. Il n'y a pas de contrainte, pas de coercition, pas de puissance armée. Son règne s'établit dans la liberté de l'amour. Alors une autre image qui est très utile pour sentir justement ce règne de Jésus, la manière de régner du Christ, c'est l'image du pasteur. Et d'ailleurs le roi David était aussi berger avant d'être roi sur le pays. Le berger est au service de ses brebis, il va chercher celle qui est égarée, il se met à la hauteur de chacune pour la soigner, la nourrir, la conduire sur le chemin de la vie. Ça marque tout un dévouement, un amour. Ce mouvement de l'humilité et du don total, Jésus l'avait déjà manifesté, rien qu'en devenant homme déjà, quand la nature divine s'est finalement abaissée jusqu'à nous, jusqu'à notre pauvre humanité, eh bien, ce mouvement d'abaissement, il le prolonge et il va jusqu'au bout en se mettant au service de tous, spécialement de ceux qui sont les plus pauvres, les plus blessés, au service des pécheurs, au service des plus petits. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ceux qui seront dignes d'entrer dans son royaume au dernier jour, eh bien, ce sont ceux qui vivent ce même mouvement du don de soi. C'est d'ailleurs ce que nous entendrons dans l'évangile de ce dimanche, puisque nous allons fêter le Christ roi, le règne du Christ. Alors, c'était quelques mots pour dire justement ces caractéristiques du Christ comme prêtre, prophète et roi, qui nous disent quelque chose de Jésus, du mystère de Jésus, qui nous disent qui il est. Mais ces caractéristiques, elles nous concernent aussi parce que nous sommes appelés à nous aussi à vivre quelque chose de ces dimensions. Notre vie chrétienne est la participation à sa vie de Fils de Dieu. Quand nous répondons à la question de Jésus, qui suis-je pour vous ? Quand nous répondons à la question, qui est Jésus pour nous ? Nous parlons de lui, mais nous parlons aussi de nous. Car nous sommes appelés à le suivre, nous sommes appelés à lui ressembler, nous sommes appelés à nous unir à lui pour toujours.